Janvier 2015, Hyper Cacher, Charlie Hebdo. Novembre 2015, le Bataclan, le Stade de France et les terrasses de l'Est parisien. Ces attaques terroristes ont changé le cours de nos vies. Le deuil des familles des victimes a commencé, et avec lui un sentiment que le cours de l'histoire avait changé, qu'il faudrait désormais tenir compte d'un risque quotidien que l'on pensait relégué hors des frontières de l'Europe. Cette peur ressentie est également devenue de manière flagrante une émotion constitutive des politiques de gouvernement, voire un instrument de gouvernement. Loi d'exception, tentatives multiples et médiatisées de définition de l'ennemi, appel à renforcer les corps d'armée et de police, fermeture des frontières, les propositions sont nombreuses de solutions pour calmer notre frayeur. Dans cette quête, comment l'histoire peut-elle nous aider à sortir de la peur, à refroidir l'émotion pour nous réarmer, nous aider à dompter cette peur pour penser ou pour agir? C'est ce que nous verrons avec trois historiens qui ont tous publié cette année sur la peur elle-même et sur les moments de violence extrême et les solutions que l'on a cherchées pour en sortir. Tout d'abord, Jenny Raflick, spécialiste du terrorisme et des politiques qui y sont attachées. Elle a publié un ouvrage cette année, « Terrorisme et mondialisation » aux éditions Gallimard. À la gauche de Jenny Raflick, Denis Crouzet, professeur à Paris-Sorbonne, spécialiste des guerres de religion, qui a publié également un ouvrage d'intervention avec Jean-Marie Le Gall, « Au péril des guerres de religion » aux presses universitaires de France. Et enfin, Patrick Boucheron à ma droite, professeur au Collège de France. Vous avez publié « Conjurer la peur » il y a quelques années et « L'exercice de la peur » avec le politiste Corey Robin il y a quelques semaines, je crois que c'était fin décembre 2015. Et nous verrons peut-être comment l'actualité vous a tous surpris dans vos travaux d'historien sur cet objet. Alors peut-être pour commencer, Denis Crouzet, Au péril des guerres de religion, ce petit ouvrage, c'est une brochure quasiment que vous avez signée avec Jean-Marie Le Gall. C'est véritablement un livre d'intervention publié en mai 2015, donc très peu de temps après les premiers attentats de janvier. L'histoire, selon vous, pouvait agir aussi vite après ces attentats?
Nous sommes partis du principe que toutes les réactions que l'on pouvait lire dans la presse essentiellement ne parlaient pas du passé d'actions de type terroriste. Tout se passait comme si l'événement de janvier avait été tellement tétanisant qu'il n'y avait pas de possibilité de le replacer dans le temps long et que de la sorte, nous ne pouvions plus qu'être livrés à une peur immédiate des événements et peut-être à certains grossissements liés à l'effet de terreur que ces atrocités qui se sont répétées ensuite à l'automne pouvaient exercer sur nous. Et donc notre objectif avec Jean-Marie Le Gall a été de rechercher si la terreur islamiste était spécifique à une religion ou si nous ne devions pas aussi, pour éviter nous-mêmes de basculer dans la peur et dans la caricature, rechercher dans le passé historique d'autres événements. Et de la sorte, nous en sommes venus à nous fixer sur ce qui était notre spécialité à tous deux, le XVIe siècle, et à constater que le christianisme flamboyant de la fin du XVe siècle a produit une angoisse, une peur, et que cette peur a débouché sur les clivages religieux, sur les haines religieuses et sur ces guerres de religion qui ont vu s'exprimer des atrocités aussi inhumaines que celles que nous avons pu voir durant l'année 2015. Donc l'objectif, c'était en quelque sorte de ne pas se laisser prendre au piège de la peur, d'écrire un livre permettant justement de dompter la peur par laquelle tout le mal peut aussi surgir en nous. Le mal n'est pas seulement dans la terreur islamiste. Il est possible en nous, si nous ne réagissons pas bien et si nous ne faisons pas acte d'historien et ne revenons pas sur l'histoire de notre passé.
Alors, dans un autre genre littéraire, Patrick Boucheron, vous avez également publié avec l'écrivain Mathieu Riboulet un petit livre, « Prendre date », à peu près au même moment, quelques semaines, quelques petits mois après les attentats de janvier. Manière de dire qu'il était difficile d'être historien à ce moment-là, et manière de dire aussi comment vous preniez acte de ce tournant déjà historique dans nos vies, à tous et à vous deux. et de montrer un petit peu comment ces événements nous rattrapaient par le col et peut-être nous mettaient à un endroit dont nous pensions être débarrassés. Et peut-être aussi qu'on peut introduire cette notion d'impression qu'on a tous eu peut-être à ce moment-là d'être rattrapé par une histoire, en tout cas une histoire guerrière.
Une histoire guerrière et une histoire longue, sans doute, oui, vous avez raison, qui dès lors posait le problème à l'historien, puisque c'est de ça dont on doit parler, c'est-à-dire quel horizon d'intelligibilité dans le passé on choisit pour dompter la peur, dites-vous. Et là, comme Denis Crouzet, j'adopterais bien volontiers cette expression. Pas nécessairement la vôtre d'éteindre l'émotion, parce que d'une certaine manière...
Pas d'éteindre, de la refroidir.
La refroidir non plus. En tout cas, c'était pas notre projet littéraire à Mathieu Riboulet et à moi. Il s'agissait au contraire de la retrouver, de la restaurer, de la raviver, de retenir l'émotion au double sens de la garder avec soi quand elle va s'éloigner et aussi d'en garder mémoire, c'est-à-dire de prendre date. Mais d'ailleurs, le livre de Jean-Marie Le Gall et Denis Crouzet est aussi d'une certaine manière chargé d'émotions et ne fait que déplacer la peur. Parce que si la peur n'est plus celle de l'autre, celle d'un islamisme radicalement étranger, elle est aussi intégrée à notre propre rapport au théologico-politique. Et c'est de cela, sans doute, dont nous aurons à parler. Mais oui, la question de l'historien, au fond, c'est celle de quel est l'horizon de référence qui va nous permettre, au fond, de faire notre métier. C'était pas tout à fait la nôtre avec Mathieu Riboulet, qui n'est pas historien, et moi, qui ne l'étais pas au moment d'écrire avec lui, puisqu'au fond, c'est pas un livre d'historien, prendre date, c'est un livre... Je ne sais pas de quoi, enfin c'est un livre qui
peut-être... De témoignages, en tout cas.
De témoignages, disons, voilà. Mais c'est comme historien que je voudrais vous répondre. Denis vient de dire, de toute façon, une des manières de comprendre, et de comprendre au sens fort, c'est-à-dire, évidemment, pas de relativiser ni d'excuser, mais simplement de trouver une manière de maîtrise sur l'événement, c'était de se ramener à la période qu'il connaissait, mieux que quiconque, les guerres de religion. Moi, c'était pas mon cas. J'avais pas de période de au fond, sur laquelle se rattraper. Je me souviens, puisque nous sommes en partenariat avec la revue de l'Histoire, je me souviens d'un comité de rédaction de l'Histoire après le 11 septembre 2001, où il y avait déjà cette sidération et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a fait ce que les historiens font d'ordinaire, c'est-à-dire se rattraper à une histoire ancienne, voire très ancienne. De dire le terrorisme, et au fond c'est comme ça qu'on peut se rassurer, eh bien c'est l'histoire des zélotes dans l'ancienne Israël, c'est l'histoire des achachins, de cette secte yéménite, chiite, en lutte contre le pouvoir fatimide au XIe, XIIIe siècle, et comme par hasard, et d'ailleurs c'est dans le livre de Génie Réflic, cette sorte d'invention des sombres précurseurs, au fond, du terrorisme, par une complète construction mémorielle. On va chercher comme origine du terrorisme un exemple en Israël et un exemple en islam. En réalité, on pourrait en trouver bien d'autres. Et c'est de ça dont on va parler. Et au fond, j'arrête là, c'est aussi ce qui me rapproche de la démarche de Génie Réflic, c'est que si cette histoire nous parlait, celle de la violence extrême auquel on a été confronté en 2015, si elle nous parlait, c'est aussi parce qu'elle faisait rejouer la question de la violence politique des années 70, 1970. Et ça, c'est toute une affaire aussi, et c'était la nôtre, Mathieu Riboulet et moi.
Et nous nous sommes rappelés que nous avions déjà eu peur. Vous, Génie Réflic, votre ouvrage, Terrorisme et mondialisation, ce n'est pas un ouvrage d'intervention, ce n'est pas un ouvrage de témoignage, c'est votre objet d'étude depuis de nombreuses années. Et pour commencer, peut-être, vous avez travaillé sur le terrorisme depuis la fin du 19e siècle. L'urgence, après un attentat, c'est de nommer, d'identifier l'ennemi. Et ça n'a jamais été si facile que ce que l'on pourrait croire.
Oui, alors effectivement, moi, j'étais pas du tout dans la même démarche, puisque je voulais étudier le terrorisme comme phénomène. Et d'ailleurs, le livre, même c'est les aléas des éditions, mais le livre a été écrit avant, bien avant les attentats, et avant même que... En fait, j'ai terminé la rédaction au moment où Daesh commençait à émerger. Donc, j'étudie le terrorisme, mais pas ce terrorisme-là de façon spécifique, évidemment. Il me semblait que ce qui était important, c'était de voir de quoi on parlait. Et effectivement, on est dans les reconstructions mémorielles en permanence quand on parle de terroristes. Parce que personne ne se dit terroriste. On n'a pas d'organisation qui se proclame terroriste, jamais. Et au contraire, c'est un nom qui a une connotation péjorative. Et toutes les organisations que l'on qualifie, nous, de terroristes, disent qu'elles ne sont pas terroristes et vont chercher d'autres qualificatifs, combattants, révolutionnaires, djihadistes avec la touche religieuse, mais armés, en général armés, c'est d'ailleurs le mot qui revient le plus souvent dans les noms d'organisations terroristes, hein, on le retrouve systématiquement. Donc le point de départ de ma démarche, c'était de se poser la question de quoi on parle, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que le terrorisme ? Et en cherchant des définitions, je me suis rendu compte que ça n'existait pas, une définition universelle du terrorisme, une définition juridique, il n'y en a pas.
Donc une peur sans objet ?
Alors, néanmoins, la peur est au cœur de toutes les définitions, et je mets bien au pluriel, de toutes les définitions du terrorisme, parce que chaque pays, pour des raisons juridiques, a besoin de donner une définition. Les organisations internationales ont besoin de trouver des pistes, et le seul point commun, finalement, de toutes ces définitions, c'était la peur, la terreur. C'est les deux mots qu'on retrouve dans presque toutes les définitions proposées. Mais en tout cas, une définition universelle du terrorisme, ça n'existe pas.
Et pourtant, on va utiliser cette notion de peur pour réarmer des politiques parfois en déshérence et nommer des ennemis ou des concurrents et profiter de ce moment-là peut-être pour s'emparer et pour désarmer des oppositions politiques qui pour autant ne font pas partie de ces terroristes qui viennent de commettre un attentat.
C'est la grande difficulté autour de l'utilisation du mot. C'est qu'effectivement, on a, depuis le 19e siècle, depuis que le mot s'est généralisé dans son usage, on a l'utilisation de cette accusation de terrorisme, parfois dans des finalités tout à fait légitimes, mais très souvent, l'accusation a été dévoyée pour des querelles politiques, pour désigner les opposants. Alors, on le voit dès la Russie tsariste. Qualifier les opposants politiques de terroristes, ça permet de généraliser la répression et ça permet surtout de demander l'extradition aux démocraties occidentales des réfugiés politiques accusés de terrorisme, le terrorisme permettant l'extradition, ce que et excluant de l'asile politique. Donc l'instrumentalisation politique, on la retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les résistants sont qualifiés de terroristes, on la retrouve pendant les guerres de décolonisation, quand les insurgés sont qualifiés de terroristes. Ça rend encore plus complexe l'utilisation de ce mot, et ça rend encore plus complexe pour l'historien le fait de s'en saisir. Il faut vraiment essayer de bien préciser de quoi on se saisit, et c'est toujours très compliqué à cause des instrumentalisations politiques et des reconstructions mémoriales que vous citiez, qui sont permanentes.
Oui, Denis Crouzet, on a pu entendre récemment le Premier ministre rabattre finalement sur elle-même, ou en tout cas tenter de rabattre sur elle-même les sciences sociales en disant qu'essayer de comprendre ces terroristes, ces auteurs d'attentats, c'était en partie les expliquer. Comment vous avez réagi à ce type de déclaration qui finalement reléguait les sciences sociales à une antichambre auquel on reviendrait peut-être, mais bien plus tard.
Je crois que si on n'explique pas, on se retire les moyens, justement, de dompter à la fois la peur que le terrorisme veut produire sur nous et celle que nous avons en nous latente. Donc, expliquer... Alors, mais comment expliquer ? Il faut, à partir de ce moment-là, je pense, faire un peu ce que, avec Jean-Marie Le Gall, nous avons fait, c'est-à-dire aller voir comment parlent ceux que l'on dit terroristes sur la toile. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai découvert ? C'est que dans cette immense rhétorique de l'appel à la lutte sainte, de l'appel à la destruction des incroyants, il y a un pôle défini qui est l'idée que nous sommes à la fin des temps. que nous sommes à la fin des temps, s'appuyant sur des signes majeurs et des signes mineurs qui font partie de la culture religieuse islamique. Et donc, ces signes majeurs et mineurs, ce sont les femmes qui s'habilleront comme des hommes, ce sont des comètes qui passeront au ciel, ce sont des immeubles qui monteront jusqu'au haut du ciel, ce sera la volonté divine qui sera méconnue et corrompue, ce sera encore la lune fendue, dans laquelle la lecture actuellement que l'on trouve sur Internet, c'est une allusion à ce qui s'est passé en 1969, quand des Américains ont gratté la lune. Cela faisait partie de l'avancée vers la fin des temps. Et donc, que disent ces sites? C'est que puisque c'est la fin des temps, il n'y aura pas de partage entre les croyants et les mécréants, que le croyant doit participer à cet moment fatal qui va venir sous peu, au cours desquels Dieu désignera ceux qui seront pour l'éternité élus et les autres basculant dans le néant de la mort éternelle. Et à ce moment-là, cela nous a fait penser à tous deux à notre XVIe siècle, où, pour expliquer le durcissement du catholicisme en une religion de violence, d'atrocité spontanée ou organisée, de crimes exhibés comme exprimant la volonté divine, il y a la certitude aussi qu'on est au bout des 6500 ans de la durée du monde et que donc il ne faut pas attendre, même si le pouvoir politique ne juge pas les hérétiques, il faut s'y substituer et donc les massacrer. Alors on a un terrorisme en quelque sorte qui ne se nomme pas, puisque comme l'a dit Jenny, la nomination n'existe pas. C'est le moyen de se laisser posséder par Dieu, de s'enthousiasmer par Dieu, qui fait que on est le bras de Dieu sur terre, comme sont aujourd'hui ces combattants qui viennent mitrailler dans la salle du Bataclan un public qui, passivement, ne peut plus rien pour préserver sa vie. Donc, c'est cette idée qui nous porte qu'il ne faut pas comparer le passé et le présent, mais comprendre que le passé porte en lui des situations qui, aujourd'hui, peuvent expliquer, contrairement à ce que dit notre Premier ministre, peuvent expliquer la dynamique d'enthousiasme sacrificiel de ces hommes qui sont venus dans Paris et dont on connaît les méfaits criminels.
Patrick Boucheron, comment avez-vous réagi à ces déclarations, à cette tentative de relégation des sciences sociales à un autre moment, et en tout cas pas le moment de l'urgence que nous vivions en 2015?
Comme nous tous, c'est-à-dire c'est pas la peine, je pense, d'épiloguer, puisque ça fait offense directement à notre métier. Donc c'est une obligation professionnelle que de s'opposer à ce que Manuel Valls a déclaré. Évidemment qu'expliquer n'est pas excuser, et bien entendu d'ailleurs que trouver une explication sociologique à la violence terroriste n'est pas dénier la puissance de ce que Denis Crouzet appelle l'enthousiasme sacrificiel, qui est propre à la force de la religion. Puisqu'il faut quand même se souvenir que si les sciences sociales ont un sens dans leur histoire même, strictement contemporaine d'ailleurs de la crise, fin 19e, dont on va parler, j'imagine, c'est qu'elles prennent d'abord, d'emblée, avec Durkheim, avec Max Weber, la religion comme un fait social. Donc l'idée d'opposer des causes religieuses à des causes sociales est évidemment une insulte même à l'histoire des sciences sociales. Ça va sans dire. Mais d'une certaine manière, je voudrais rebondir aussi sur cette question de l'enthousiasme. C'est très fort. Parce que ça veut dire que lorsqu'on dit peur, on prend évidemment notre point de vue. Et nous sommes tout de même légitime à le faire, puisque là, dans le cas qui nous occupe et nous angoisse, c'est-à-dire janvier 2015, celui qui est attaqué, enfin en tout cas ceux qui sont attaqués, sont quand même en droit de donner sens à ce qui les attaque. Bon. On va dire peur. Terrorisme n'est pas tout à fait la même chose, puisque évidemment la peur, c'est pas la terreur. La terreur, pour nous, dans une acception politique française, elle est, et cela aussi, il faudrait en parler, irrémédiablement liée à la période révolutionnaire. On ne parle pas de terreur avant, effectivement, le moment révolutionnaire, ou à peine, y compris dans les dictionnaires. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, cette logique, elle est, dans toutes les définitions du terrorisme, y compris les définitions contemporaines, comme Jenny le dit, bien sûr, la peur, elle est systématique, c'est-à-dire celle qui consiste à tétaniser l'ennemi, mais est tout aussi systématique l'enthousiasme ou l'adhésion, c'est-à-dire que du même mouvement, on encourage les combattants. Donc, il faut comprendre, évidemment, cette puissance, et là, effectivement, on peut s'accorder à la trouver religieuse, mais au sens où la religion est un fait social, cette puissance, effectivement, d'adhésion que l'acte terroriste crée. Et pour ce, évidemment, relire les témoignages des poètes symbolistes, Mallarmé, de tous ceux qui ont été fascinés entre 1892 et 1894 par la poésie noire de la bombe, peut nous être utile. Parce que, d'une certaine manière, je pense à ce livre de Uri Eisenzweig, Fiction de l'anarchisme, qui montre que il y a une contemporanéité entre justement une forme de crise littéraire du récit, déjà une crise du récit, fin du XIXe siècle, avec la construction de ce qu'on, qui est aussi une construction en partie politique et mémorielle, de la catégorie l'attentat anarchiste. Parce que ce à quoi attente l'attentat, c'est à notre capacité à le raconter. Et c'est pour ça d'ailleurs que les poètes symbolistes, je reviens sur Mallarmé, mais je reviens sur Mallarmé parce que je pense à l'extraordinaire préface que Jean-Paul Sartre a donnée à la poésie de Mallarmé où il dit, voilà, cette poésie-là est une forme polie de terrorisme. Et donc ça, après, évidemment, on imagine tous les échos dans les années 70, etc., 1970. Au fond, ce qu'on a à comprendre ensemble, c'est comment un récit historien peut se réarmer, avez-vous dit l'un et l'autre, se réarmer pour justement échapper à cette déprise qui est propre à l'attentat, à l'idée même d'attentat, qu'il vise l'irracontable.
Jenny Raflick, justement, vous m'avez envoyé un petit mot lorsqu'on préparait cette émission et cette journée en me disant, mais malgré ces déclarations de Manuel Valls, on a toujours fait appel finalement aux chercheurs en sciences sociales pour analyser et pour tenter de mettre en récit ces moments de grande violence.
Alors, la déclaration de Manuel Valls, c'était même paradoxal parce que les gouvernements ont souvent été les premiers à commander aux chercheurs en sciences sociales des études sur la question. On en a vraiment beaucoup aujourd'hui, hein, d'études sur les profils des terroristes, les profils des gens arrêtés, jugés, etc., identifiés. Et notamment dans les années 70-80, toute une vague d'études de sociologues ou de psychologues ont été commandées par les ministères de l'Intérieur, les ministères de la Justice, les gouvernements des pays qui affrontaient le terrorisme. Parce que pour pouvoir lutter, il fallait savoir contre quoi on luttait. Il fallait avoir des indications sur les profils, sur ce qui pouvait motiver les gens, à la fois pour lutter concrètement pour les identifier et aussi pour lutter pour prévenir, c'est-à-dire essayer de désamorcer ce qui les amenait à se tourner vers le terrorisme. Donc on a effectivement eu un intérêt des gouvernants pour ces questions et ils ont largement encouragé la recherche en sciences sociales dans la matière. Donc il était un peu paradoxal de voir qu'aujourd'hui on voulait s'en détourner.
Recherches qui ont été lues, qui ont été écoutées, qui ont donné lieu à des politiques inspirées de ces recherches.
Alors, il y a des politiques inspirées de ces recherches, mais de façon très inégale. Alors, il y a un cas qui est très connu à propos d'Al-Qaïda, c'est Mark Stegman qui a publié un livre absolument passionnant sur les profils d'Al-Qaïda. Bon, il était consultant pour la CIA, hein, directement impliqué dans la lutte antiterroriste. On voit que, effectivement, les experts, finalement, les acteurs de la lutte antiterroriste et les acteurs de l'étude sur le terrorisme sont parfois les mêmes. Dans ce cas, c'était vraiment absolument évident. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué parce que les résultats sont peut-être pas aussi simples que les décideurs politiques auraient l'espéré. Notamment pour les groupes des années 70-80. Alors, on a des études très précises, mais qui nous montrent qu'il n'y a pas un profil. que justement on peut pas déterminer un profil, notamment des études tout à fait éclairantes qui comparent les cas des Italiens, les cas des Allemands, et qui montrent des profils totalement contrastés, voire contradictoires, et qui nous montrent que on va pas identifier tel enfant, il a tout pour devenir terroriste. Non, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et peut-être que la recherche en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, justement parce qu'elle montre que les choses sont beaucoup plus compliquées, il n'y a pas les gentils et les méchants, n'a pas l'écoute qu'on pourrait espérer auprès des décideurs qui attendent des réponses beaucoup plus utiles et directes. Et justement, on montre que c'est beaucoup plus complexe que ça.
Denis Crouzet, on peut s'interroger sur la définition du terrorisme, mais on est aussi là aujourd'hui pour s'interroger sur des méthodes, sur des solutions que l'on pourrait se proposer, que l'on s'est proposé dans le passé, pas pour se débarrasser de la peur, mais peut-être pour en faire quelque chose et reconstruire une société peut-être un petit peu plus saine, puisqu'en démocratie, une société démocratique qui a peur, c'est une société qui va mal.
Et qui peut aller vers une autre image que celle qui est en elle. Donc, c'est là où, toujours avec Jean-Marie Le Gall, à qui je rends hommage, qui ne peut pas être là, je veux dire que nous avons posé que peut-être la capacité qu'ont certains dans notre société de se laisser séduire par cet enthousiasme, cette lisibilité spécifique du texte saint, peut-être cette capacité relève-t-elle d'une inadéquation de notre enseignement, et spécifiquement de l'enseignement de l'histoire. Moi, je crois que l'enseignement de l'histoire est remarquablement bien construit dans notre monde, mais qu'il manque de pathos, qu'il manque de vie. C'est un monde froid qui est décrit aux élèves et que l'on leur apprend à analyser, à expliquer, mais un monde qui est sans vie parce que n'ayant pas de sens éthique. L'histoire, c'est un récit froid, mais pourquoi ne pas dire et répéter qu'en histoire, la violence existe, que la violence sous ses formes religieuses ou non religieuses, quand elle s'exerce dans l'aveugle, violence militaire, violence de civil, violence terroriste, c'est le mal. Alors cela peut apparaître comme une perspective moralisatrice de basse source, mais l'histoire pour les anciens était maîtresse de vie, magister vitae, et aujourd'hui, il me semble que dans l'enseignement secondaire, où des collègues formidables essaient de donner le goût à l'histoire, elle n'est qu'une sorte de bloc de glace dans lequel défilent des ombres, sans qu'il y ait en retirer une valeur morale, sans qu'il y ait à apprendre que le mal existe. Alors le paroxysme de ce désapprentissage de l'existence du mal, bien entendu, c'est la difficulté qu'ont les collègues à enseigner la Shoah, le mal absolu, mais pourquoi ne pas plus souvent raconter en histoire que l'aventure humaine est une aventure terrible depuis longtemps, et pourquoi ne pas essayer d'expliquer ce qui fait que le malheur advient dans nos sociétés sous des formes différentes qui s'appellent l'obsession religieuse, l'enthousiasme religieux, ou le nazisme, ou certaines expériences terrifiques dans le sud-est asiatique. Pourquoi ne pas insister beaucoup plus sur cette capacité qu'ont des sociétés à basculer parce qu'elles se laissent prendre dans des discours préformatés qui ont une capacité fascinante, et la toile, ces sites islamistes fascinent, sont hypnotiques, créent de l'hypnose quand on continue dessus. Pourquoi ne pas changer un peu notre perspective historique, qu'il ne s'agit pas de restaurer une histoire civique comme la Troisième République l'avait voulu, mais une histoire pathétique qui raconte qu'il y a du malheur dans l'histoire et qu'on ne peut pas parler de tout sans émotion. Patrick Boucheron parlait d'émotion tout à l'heure. Transformons l'histoire en émotion et pas dans ce magma. Nous, dans l'université, nous avons la froideur, nous avons été formés au positivisme. et nous désincarnons un peu notre objet, c'est peut-être aussi une faille qui permet à ces fanatiques de l'Apocalypse de trouver un public.
Et dans votre ouvrage, au péril des guerres de religion, d'ailleurs, vous ne négligez pas cette dimension émotionnelle, mais vous nous proposez aussi quelques portraits de penseurs qui ont tenté de trouver des solutions pour sortir de cette période de guerre civile, pour apaiser, pour tenter de rassembler une société meurtrie et divisée. Et ce type de récit, c'est-à-dire ces belles histoires, finalement, ces propositions qui font du bien, qui nous permettent pas seulement de bien vivre, mais de vivre bien, elles sont importantes aussi, Denis Crouzet.
Oui, alors que au XVIe siècle, à partir de 1550, des prédicateurs appellent carrément à utiliser le fer et le feu contre toute personne dévoyée de la foi, comme on disait. Alors que les villes connaissent ces processions au cours desquelles des cadavres sont démembrés, tirés, éventrés, il y a eu de grandes figures qui me semblent plus importantes à enseigner que des tyrans comme Louis XIV ou Napoléon Bonaparte. Je pensais par exemple à un de mes penseurs favoris, Michel de l'Hôpital, qui invente la concorde religieuse en affirmant que tuer son prochain, c'est faire le contraire de ce que Dieu veut. Bon, c'est un penseur qui s'inscrit dans une société religieuse et qui appelle à la cohabitation, vivre avec son prochain qui est d'une autre foi que soi, ce n'est pas se condamner, au contraire, affirme l'Hôpital, c'est faire son Saint-Lut en attendant que la Providence décide de réunir les deux fois. Et on pourrait citer aussi Montaigne, écrivant cet essai sur les des cannibales, dans lequel il montre que ces cannibales qui mangent leur prochain, les dévorent, morts, sont moins barbares que les catholiques de son temps, qu'il a vu autour de lui, pourtant nourris de foi chrétienne, et donc qui ne devraient pas basculer dans le mal, réalisant ces atrocités. Il y a une sorte d'inversion du sauvage qui m'avait fasciné quand j'avais, dans les années 80, travaillé sur la violence religieuse. Il y a une inversion, et Montaigne nous appelle justement à chasser la peur de nous-mêmes qui nous porte à faire le mal à l'autre en montrant que on devient plus affreux, plus méchant, plus barbare que ceux qui n'ont pas la véritable conscience qui pourrait leur apprendre à ne pas dévorer les autres. Mais ils les mangent morts, tandis que pendant les guerres de religion, des exemples ont montré que des catholiques ou des protestants ont mangé vivants leurs adversaires.
Patrick Boucheron, on voit bien à quel point la frayeur peut combattre également la peur en montrant à quel point le combat contre la peur peut induire des politiques qui instrumentalisent la peur. Comment vous voulez réagir à ce que vient de dire Denis Crouzet ?
Bien sûr, Montaigne, qui, du même élan, effectivement, explique combien nous sommes les barbares du monde et comment, malgré tout, les cannibales peuvent être appelés barbares, eu égard non pas à nos propres coutumes qui sont pires que les leurs, mais eu égard aux règles de l'universel. Et effectivement, toute la question, qui est la question à la fois politique et scientifique, c'est-à-dire comment, d'une certaine manière, expliquer, c'est-à-dire relativiser, tout en gardant intact ce que l'anthropologue Gérard Lanclus appelle le pari de l'universel. C'est une question qui est sérieuse et qui est sérieusement posée aux sociétés politiques confrontées au terrorisme. Précisément du fait de ce que Jenny disait, c'est-à-dire que on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu une intense réponse des sciences sociales, en tant qu'elles sont quand même très largement instrumentalisées par les gouvernements, notamment aux États-Unis. Parce que la grande affaire, elle est là. C'est-à-dire que les États-Unis ont quand même connu, bien plus tard, par définition que l'Europe, le terrorisme en 2001, mais depuis 2001, on produit, et vous le montrez, une littérature qui en impose à l'ensemble des pays occidentaux, au point que, en particulier dans sa capacité à mathématiser justement, et qui est la grande affaire qui nous occupe aujourd'hui politiquement. Parce que la mathématisation du profil djihadiste, ramené à quelques règles que l'on peut calculer, le rend prévisible. Et donc, du point de vue du droit, parce qu'on pourrait parler, nous avons parlé de la définition historienne du terrorisme, et la définition juridique du terrorisme, elle est encore plus instable. Et c'est bien le problème, puisque d'une certaine manière, c'est un phénomène mondial, mais qui ne peut être appréhendé que dans des juridictions nationales. Lorsque des terroristes internationaux sont appréhendés, la plupart du temps, ils sont jugés selon des droits nationaux. Donc, ce qui est terrible du point de vue juridique, c'est que cette mathématisation des sciences sociales aux États-Unis dont vous avez parlé, eh bien, elle inspire, mais je dirais qu'elle incite des législations, comme le Patriot Act, et comme d'une certaine manière celle européenne qui viserait, sans nécessairement le dire, à s'en inspirer, qui ne viserait pas seulement l'action terroriste, mais l'intention terroriste, en fonction de ce qu'on peut calculer des profils. Et voilà, la guerre des drones, aujourd'hui, est une guerre des algorithmes. C'est-à-dire qu'on va aller frapper en Syrie et en Irak, non pas des gens qui sont terroristes, mais qui statistiquement devraient l'être, en fonction des algorithmes que l'on a programmés. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais d'une certaine manière, on est là, au fond, au cœur d'un problème contemporain. Et c'est terrible de voir que, au fond, toute notre science historique, vénérable, les sciences sociales, on parlait de Weber, Durkheim, des positivistes, etc., tout ça s'est fait emballer et immédiatement dépasser par la, j'allais dire, la puissance de feu de l'expertise américaine qui, en 15 ans, s'est imposée à tous. Et c'est pourquoi le dialogue avec Corey Robin, l'auteur de l'histoire de la peur, qui est en fait rien d'autre qu'une histoire de l'effet de souffle de la terreur, en tant que terreur désigne à la fois la crainte et la révérence, et la soumission et l'obéissance, l'effet de souffle donc du 11 septembre sur l'ensemble des sociétés occidentales. Et donc notre dialogue visait au fond à comparer la peur à l'américaine à la tradition plus ancienne, mais moins armée, de la terreur européenne.
Une réplique, je vois que vous voulez intervenir.
Oui, alors cette mathématisation de la recherche sur le terrorisme, elle est, à mon avis, presque très inquiétante, parce qu'elle peut devenir dangereuse dans certaines extrémités qui en ont été faites. Et en particulier, son problème, c'est qu'on retombe toujours sur la même question, qui est qu'on n'a pas de définition du terrorisme. Or, les modèles mathématiques que nous proposent beaucoup de chercheurs américains reposent sur des bases de données. Mais des bases de données qui sont contradictoires entre elles. Il y en a plusieurs sur le terrorisme. Certaines sont gratuites d'accès sur Internet. Vous pouvez les utiliser vous-même très facilement.
C'est très rassurant.
Mais non, de bases de données qui recensent tous les attentats terroristes. Alors, en général, depuis les années 70, pour certaines depuis 1945, en tout cas depuis qu'on a des outils pour traiter ce genre d'informations. Mais dans la mesure où elles ne prennent pas tout en compte la même définition du terrorisme, elles ne recensent pas les mêmes actes et donc n'aboutissent pas au même résultat. Et on voit chez certains auteurs américains, alors il y a une étude que je cite dans le livre sur l'efficacité des attentats suicides, quand je l'ai lu, mes cheveux se sont dressés sur la tête, ce chercheur, très calmement, parce qu'il travaille sur des données mathématiques et je pense ne réalise même plus au bout d'un moment de quoi il parle, nous explique que c'est tout à fait efficace pour aboutir et faire aboutir ses revendications politiques. Outre le fait qu'il s'appuie, évidemment l'étude date de 2003, il s'appuie sur le résultat des Tamouls obtenus grâce aux attentats suicides, sauf qu'effectivement aujourd'hui les succès des Tamouls obtenus en 2003 sont très relatifs, puisque entre-temps ils ont été défaits militairement, donc le résultat de l'enquête déjà est forcément biaisé par la chronologie, et puis avec une lecture très rapide, il légitime, là pour le coup Emmanuel Valls pourrait y voir un danger, il légitime l'utilisation de l'attentat suicide, ce qui paraît quand même un petit peu un petit peu curieux dans une étude scientifique. Donc ces études, elles sont vraiment à prendre avec beaucoup de précautions. Et effectivement, là, je pense que les Européens ont un plus à fournir en la matière, avec peut-être une expérience, pour le coup, malheureusement, plus grande sur le terrorisme, de par une histoire européenne du terrorisme qui est plus ancienne et une expérience de la question. Je reviendrai juste sur l'histoire et sur ce que vous disiez. Là, je prends l'autre casquette qui est celle de l'enseignante. Après les attentats, comme beaucoup d'autres enseignants, j'ai été confrontée à des étudiants qui avaient énormément de questions. Moi, je leur ai raconté les grandes étapes en France et en Europe, les grandes vagues de terrorisme. Et finalement, ce qui les a rassurés, c'est de voir que nos démocraties avaient toujours réussi à gagner et à l'emporter. Et là, l'histoire peut peut-être et même sans doute servir pour vaincre cette peur, puisque finalement, toutes les vagues de terrorisme que la France notamment a connues, la démocratie en est toujours quand même sortie vainqueur.
Mais alors comment ?
Par échec du terrorisme qui finit forcément par être une impasse. Ça, c'est une interprétation peut-être possible du terrorisme. Le terrorisme est souvent choisi par des organisations en fin de vie, désespérées, qui n'ont pas à ce moment-là un autre moyen de s'exprimer. Et c'est en soi déjà un facteur d'échec que ce recours à cette violence contre des civils.
Il y a une dimension aussi très importante dans vos travaux, Jenny Raflick, c'est la question de la médiatisation de la peur. C'est-à-dire, il y a des moments où il y a eu des attaques, en Chine notamment, des attaques terroristes, où finalement on a assisté à très peu de publicité de l'enquête elle-même, un récit vraiment très, très minimaliste. Et aujourd'hui, on assiste, en France en tout cas, à quelque chose de totalement flagrant dans la grandiloquence et dans l'omniprésence, finalement, de cette question du terrorisme et de ce qu'elle pourrait faire, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle a déjà fait et de ce qu'elle va faire à notre société.
C'est la grande différence entre les régimes autoritaires et les démocraties face au terrorisme. Alors, je reviens sur ces bases de données. Ces bases de données ont tendance à montrer qu'il y a plus d'attentats dans les démocraties que dans les États autoritaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les États autoritaires, l'information est cadenassée et qu'on ne sait pas et que donc on ne répertorie pas s'il y a ou non des attentats. Cet exemple de l'attentat qui avait eu lieu à la voiture piégée place Tiananmen en 2013, on a su qu'il s'était passé quelque chose parce qu'il y avait des touristes occidentaux sur place, mais l'enquête, les informations, tout a été cadenassé. Ça n'est pas vraiment sorti et les médias, la Chine a parfaitement maîtrisé ses médias. Donc dans ce cas-là, le terrorisme échoue puisqu'il ne peut pas de toute façon faire valoir ses revendications, il ne provoque pas la peur puisque personne n'est au courant qu'il y a un attentat, ça ne se sait pas. D'un autre côté, évidemment, les démocraties sont soumises par la médiatisation à la peur, mais c'est aussi ce qui permet de contrebalancer et de faire résilience et de mobiliser la nation et de souder un peuple contre l'action terroriste. Donc on a vraiment cette ambivalence là du lien à la peur. C'est évidemment dans la stratégie terroriste quelque chose d'important, mais dans la stratégie antiterroriste, c'est encore plus important. C'est la peur qui soude et qui mobilise la nation contre les actes terroristes.
Patrick Boucheron, je voyais que vous aviez envie d'intervenir au moment où on parlait justement de ces cours que Jenny Raflick a donnés, où elle racontait justement comment on s'en sortait.
Parce qu'on s'en sort toujours.
Voilà.
Parce que de toute façon, ça se termine. Une histoire, en tout cas, se termine. Mais justement, ce qui doit nous maintenir en alerte, en vigilance, et avec sans doute l'énergie et la vitalité dont parlait Denis Crouzet, c'est que si l'on prend encore le cas américain tel que Corey Robin la raconte, il dit à la fin de son livre, les guerres au terrorisme finissent toujours par cesser. Mais leur survivent les institutions qu'on a construites pour les combattre. Et à ce moment-là, la peur se retourne, car d'une certaine manière, le régime politique peut en être dénaturé et est en attente, d'une certaine manière, en disponibilité d'un usage possiblement malveillant de ces institutions de la peur. Donc, d'une certaine manière, on peut en avoir fini avec le terrorisme, mais pas nécessairement avec la peur. Et c'est pour cela, effectivement, que cette question de comment on en sort, eh bien, politiquement. Puisque, d'une certaine manière, Michel de l'Hôpital ou Montaigne, ce sont quand même, voilà, une manière de, enfin, ce sont des éléments, enfin, peut-être tu me détromperas, mais enfin, ce sont des étapes quand même dans, disons, l'autonomisation d'une forme de raison politique. Et ça, c'est très important, justement, pour essayer de rendre, là encore, dynamique notre compréhension historique. Souvenons-nous de ce qu'a dit Olivier Roy, un des grands spécialistes de l'islamisme politique, et de son échec programmé après les attentats de novembre, où il a dit, ce qui a frappé tout le monde, je crois, dans une tribune du Monde, comprenons bien que l'islamisme politique n'est pas la radicalisation de l'islamisme, mais l'islamisation de la radicalité. Ce qui veut dire que, évidemment, pour en sortir, on ne doit pas uniquement demander ses raisons à l'islam, même si c'est quelque chose d'important de rappeler que, d'une certaine manière, il est faux de dire que l'islamisme politique a l'Occident comme ennemi. L'Occident est, c'est bien malheureux pour ceux qui se croient encore au centre du monde, une des provinces de leur haine. Mais la haine la plus tenace pour, effectivement, les puissances sunnites sont, par exemple, les combattants chiites. Et donc, effectivement, ils n'aiment pas du tout l'Occident, mais il y a plein d'autres éléments à l'intérieur de ce que nous appelons, un peu de manière un peu vague, le monde arabo-musulman, qui, comme le rappelait Jacques Derrida après le 11 septembre, n'est pas un monde et n'est pas un. D'une certaine manière, on en sort toujours en rappelant la nature fondamentalement politique de cette révolte, fondamentalement politique, qui trouve, c'est pas une manière de nier la puissance de la religion, mais évidemment si on dit islamisation de la radicalité, ça nous renvoie aussi à notre histoire, ce qui est le geste de Jean-Marie Le Gall et de Denis Crouzet. À l'histoire de la radicalité, par exemple, de la violence politique dans les années 70, je ne sais pas, par exemple, Jean Birnbaum...
Et à la fin du 19e siècle également.
Et de la fin du 19e siècle. Et Jean Birnbaum a choqué dans son livre « Un silence religieux », son dernier chapitre, qui, au fond, montre comment il y a un rapport entre le djihadisme et les brigades internationales, après tout. Ce sont aussi des jeunes gens qui sont épris d'universel, qui ont un but universel, au fond désintéressés, qui veulent célébrer les noces du voyage et de la guerre, comme dit Hervé Mazurel pour d'autres idéalistes que sont les philhellènes. Et ben, alors c'est ce qui a le plus choqué, parce que c'est le plus dérangeant, mais c'est peut-être le plus juste. C'est-à-dire que si on ne comprend pas justement la force d'entraînement qu'il y a dans ce qui demeure aujourd'hui la seule cause globale, dans ce cas-là, effectivement, on a perdu d'avance. Donc, la nécessité de repolitiser cette affaire, de se souvenir de ce qu'a été, effectivement, la violence politique des années 70, autre pratique de l'idéal, d'en faire l'histoire aussi, parce que ce n'est pas exactement l'histoire qu'on nous a racontée. Par exemple, le terrorisme d'extrême-gauche en Italie, on comprend aujourd'hui qu'il n'était qu'un des éléments d'une stratégie de la tension, où c'était essentiellement quand même l'État et les services secrets qui voulaient déstabiliser leur propre pays. Ce qui était encore pire que la vision la plus paranoïaque de l'extrême-gauche pouvait imaginer à ce moment-là. Donc vous comprenez, aujourd'hui, dans l'enseignement, un des enjeux, c'est de lutter contre le conspirationnisme, mais ça serait plus facile si les complots n'avaient pas existé. Or, ils existent, et parfois de manière encore plus sidérante qu'on ne pouvait le croire. Donc, c'est pour ça que l'histoire, effectivement, on peut s'accorder sur cette idée, est une ressource non seulement d'intelligibilité, mais d'énergie, de tonicité, en fait, citoyenne. Alors, doit-elle être plus pathétique? Doit-elle être plus entraînante? En tout cas, elle doit être assurément engagée.
Denis Crouzet, un dernier mot pour la fin, peut-être pour réagir justement à ce que disait Patrick Boucheron.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patrick. Ce que je voulais juste dire, c'est que le terrorisme, dans ses expressions différentes et transséculaires, nous cache un peu ce qu'il est et ce qu'il y a en lui. Il nous cache la peur qu'il y a dans ces hommes qui vont mourir de ne pas répondre aux appels de Dieu. Mais il nous cache aussi le fait que, dans leur perspective eschatologique, ils procèdent à une inversion de la peur. Dans le discours sur la toile, on voit très bien comment la peur change de camp dans leur esprit. Ils veulent produire de la peur à partir d'eux-mêmes qui n'ont plus peur, et ils veulent produire de la peur chez les incroyants, les mécréants, parce qu'ils savent qu'ils peuvent, à partir de là, déstabiliser la démocratie, les conditions même du vivre ensemble de sociétés qui sont pluriculturelles, pluriethniques. Et leur objectif, c'est de créer la peur. Donc, le plus grand danger, c'est de méconnaître le fait que nous sommes sujets à la peur et que nous devons, comme vous, et le titre, tout faire pour bloquer ce même mal qui est en eux, mais qui peut venir en nous et faire en sorte que nous-mêmes, nous détruisions l'altérité. Voyez.
Et donc pour cela, l'histoire reste une discipline qui nous donnerait cette énergie, comme vous le disiez, Patrick Boucheron. Merci beaucoup pour ce débat. Merci à tous. Alors, je crois qu'il y a un ou des micros qui sont dans la salle pour des questions, des interventions éventuelles.
Bonjour, Monsieur Crouzet, vous est-il possible de préciser de quel bloc de glace vous parlez dans l'enseignement secondaire ? J'enseigne dans l'enseignement secondaire. Les questions de la violence, les questions du mal sont extrêmement présentes dans les programmes actuels de l'enseignement secondaire, d'une façon qui est parfois même anxiogène pour les élèves, ils l'expriment, et l'émotion est extrêmement présente dans les cours d'histoire actuellement. Merci.
Je regarde les manuels qui vous sont proposés pour servir de base à l'enseignement, et je ne trouve aucun pathos. Je trouve juste une accumulation factuelle, statistique, très détaillée. Me semble que l'on perd une finalité à l'histoire, si vous voulez. C'est un système de connaissances qui est donné à enseigner, mais sans sens, qui permettrait d'endiguer les potentialités d'une pensée ahistorique, c'est-à-dire cette eschatologie, hic et nunc, la venue de Dieu et le châtiment de tous ceux qui ne croient pas en Dieu.
Alors, franchement, par exemple, si vous prenez l'exemple du massacre de la Saint-Barthélemy, il est en ouverture dans les manuels du programme de la question de humanisme et renaissance. Et dans les instructions, il est vraiment, depuis les derniers changements de programme, on insiste particulièrement justement sur la vocation du professeur d'histoire à donner de la chair et de l'émotion par rapport aux documents qui sont proposés et à mettre l'histoire en récit. C'est vraiment quelque chose qui nous est demandé très très fortement depuis les derniers programmes.
Merci. Je suis content.
Une autre question ou intervention?
Tout à l'heure, on parlait de démocratie et face au régime totalitaire. Nous avons vu tout le long que nous avons peur du terrorisme. Et quand nous regardons l'histoire depuis 45, on va dire, tout ce qui est terroriste et état totalitaire, on essaye de le combattre dans nos pays occidentaux. Et la plupart du temps, c'est par les bombes, comme nous pouvons le voir avec Nagasaki au début et par la suite, pendant la guerre froide, par exemple. Aujourd'hui, nous avons peur, on peut le voir, de bombarder vraiment les pôles terroristes, comme nous avons vu avec le cessez-feu récemment. Pourquoi nous avons peur alors qu'avant on le faisait ?
Général Flick ?
Oui, alors en réalité, on répond de façon militaire au terrorisme quand même depuis la fin des années 80, les années 90. Avant, c'était l'apanage de la police, justement. Le terrorisme est devenu une question de défense très progressivement. Alors, on a très longtemps fait très attention de ne pas parler de guerre au terrorisme. Alors là, c'est encore plus récent, le glissement rhétorique. Parce qu'il fallait surtout pas légitimer le discours terroriste qui dit qu'il fait la guerre. notamment les Britanniques face à l'IRA ont toujours fait très attention de ne pas en faire une question militaire, même si l'armée, en l'occurrence, était utilisée, parce que les Irlandais se disaient être des combattants d'une armée pour la libération d'un pays et qu'il fallait surtout pas aller dans leur sens. Donc,
ne pas leur donner de légitimité.
Ne pas leur donner la légitimité du combattant armé, militaire. Ce qui pose des problèmes juridiques, d'ailleurs très compliqués. On l'a vu avec Guantanamo, mais ce sont des questions juridiques importantes. Si on dit qu'on fait la guerre aux terroristes, ça veut dire que le terroriste est un combattant. Ça veut dire que c'est un militaire. Ça veut dire que vous êtes prêt à lui appliquer les lois de la guerre et donc,
à le protéger. Et donc la protection aussi.
Et donc à le protéger. Voilà, c'est très compliqué cette rhétorique. Elle sert à mobiliser la nation, mais est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout de la logique? Évidemment non, aujourd'hui. Donc de fait, penser que c'est une question de défense, c'est assez récent. Quant à ce qui est du lien justement de la réponse militaire à la menace terroriste, on est quand même largement dans l'instrumentalisation de la chose et dans une réponse géopolitique à la question du terrorisme, et qui ne fonctionne pas pour tous les types de terrorisme. On va pas bombarder la Corse. Ou alors, vraiment, ça me paraît pas être une bonne réponse. Mais on a évidemment des instrumentalisations politiques, géopolitiques, et le terrorisme n'est pas que dans les États totalitaires un motif d'instrumentalisation et un motif pour justifier et légitimer une politique qu'on a décidée autrement et pour d'autres causes. Donc on est toujours là dans ces problématiques d'instrumentalisation, je pense, très fortes.
Monsieur Boucheron, pourriez-vous revenir sur la dernière idée que vous avez développée, à savoir, je vous cite, « il faut comprendre la force d'entraînement de la seule cause globale ». Que vouliez-vous dire par là ?
C'est-à-dire que je me référais effectivement à ce que j'ai lu. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Il y a des profils, sans doute. Oui, il y a des profils qui sont sociaux. Il n'est pas exclu non plus qu'il y ait des profils psychologiques. Lorsqu'on lit, par exemple, Fethi Ben Slama, il montre quand même, pour les avoir d'ailleurs étudiés en clinicien, puisque lui, il est psychanalyste, qu'il y a un profil psychologique. Alors là, pour ce qu'on a subi, c'est-à-dire les plutôt français, convertis, jeunes, mais jeunes, mais pas non plus des gamins, trentenaires, etc. Bon, et si on croit effectivement Fethi Ben Slama, leur seul point commun, il est quand même psychologique, une crise identitaire, etc. Bon, voilà. Bon, mais tout cela n'est rien. Tout cela crée justement la disponibilité, l'attente d'un profil, pourvu qu'il soit animé par quelque chose. Et ce que je disais là, c'était simplement, enfin ce que je suggérais, sans aucune autorité pour le dire, c'est que justement, si on considère que parmi la typologie que vous, Jenny, vous proposez du terrorisme, terrorisme ethno-nationaliste, le terrorisme identitaire, donc on aurait l'IRA, on aurait, je sais pas, les Kurdes, et le terrorisme, disons, à visée universaliste, nihiliste et universel, l'islamisme politique, il est dans cette catégorie-là, évidemment. Évidemment. Donc, dès lors, c'est une cause. Et c'est la seule cause mondiale disponible. C'est ce que ne cesse de dire Olivier Roy. Et de ce point de vue-là, son succès dit aussi notre incapacité à produire un horizon d'espérance ou même de compréhension du monde qui soit à la hauteur et à l'intensité. Parce que c'est une forme, effectivement, d'incandescence. Cette manière, effectivement, de porter si haut la vie que, d'une certaine manière, elle se consume dans la mort, aucune de nos causes idéologiques ne peut effectivement s'opposer efficacement à cette attirance. Et on en revient à ce que vous disiez l'un et l'autre, l'enthousiasme, l'adhésion, la séduction. Si on n'en prend pas la mesure, si on a évidemment simplement une réponse policière ou qui est nécessaire, bien sûr, personne ne le nie, évidemment, on risque de ne pas en avoir fini tout de suite.
Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous.